Bonjour à toutes et à tous, l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rodez, c'est tous les 15 jours en partenariat avec l'ADAVEM de l'Aveyron. L'ADAVEM de l'Aveyron, c'est l'association départementale d'aide aux victimes et de médiation. Et comme tous les 15 jours, je reçois deux médiatrices familiales diplômées d'État, évidemment. Lucia Vintila, bonjour Lucia.
Bonjour David.
Et Justine Lacombe, bonjour Justine.
Bonjour David.
Bon, vous n'êtes pas en vacances alors?
Pas encore.
Ah, il y a des vacances à l'ADAVEM. Alors je ne parle pas de vos cas particuliers à toutes les deux, mais il y a une fermeture, parlons-en, profitons-en pendant qu'on y est.
Normalement on assure une permanence tout l'été, donc c'est quelqu'un qui sera sur place. Et je profite de ta question, merci beaucoup de m'avoir adressé, pour dire que si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous trouver au téléphone 05 65 73 56 00 ou vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse contact@adavem.fr.
Très bien, merci beaucoup Lucia. Et voilà, une info, hein, la DAVEM est ouverte tout l'été. C'est vrai que les situations, on peut avoir besoin de vous et de la médiation. Bah, il n'y a pas de pause. Bref, 10e émission de l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rodez. Bah, ouais, ça se fête un anniversaire comme ça.
Bah, ça se fête.
Hein, bon, on va peut-être attendre un petit peu la prochaine avant une petite pause pour l'émission cet été. Là, pour ce numéro 10, Justine et Lucia, vous avez choisi comme thème, un thème j'imagine central hein, dans votre travail, la place des enfants en médiation familiale. Ouais, ça doit être central. Oui, il n'y a pas toujours des enfants, mais enfin quand il y en a... Ils sont au centre de tout.
Tout à fait. Donc, on a choisi ce thème parce qu'on parle beaucoup des enfants en médiation familiale.
Oui.
Dans une médiation familiale normale, oui. Donc la classique, ils sont les grands absents, comme j'aime bien à dire, parce qu'ils n'ont pas leur place physiquement dans la médiation familiale.
Ah bon ?
Mais par contre...
Jamais.
Il ouais, n'existe pas jamais, il faut,
ouais, ouais, ouais,
il faut
oui,
définir jamais. Jamais, c'est en idéal. Non, on peut faire venir les enfants dans une médiation classique des parents, d'accord, mais il faut questionner leur intérêt de venir et on doit évaluer si on le fait venir ou pas.
D'accord.
Mais comme les parents en général qui viennent nous voir, ils parlent des enfants parce que la séparation, ça concerne évidemment les enfants, la résidence, la pension alimentaire, toutes les dépenses qui se jouent autour de ces enfants, leur futur, etc. Donc, on parle des besoins des enfants et des enfants, mais physiquement, ils ne sont pas en médiation. Par contre, on peut les symboliser par une chaise. On a tout le temps dans l'espace de médiation une chaise
vide.
En plus, ouais. Vide, exactement, qui peut représenter l'enfant. Ou on peut utiliser d'autres techniques ou outils, comme tu veux le dire. Par exemple, dans une médiation dans laquelle papa a refusé avoir son enfant, j'ai demandé à la mère de venir avec une photo.
Ah,
parce
ouais.
que c'était un enfant qui avait une année, si je me souviens bien, et il ne l'a pas vu presque de sa naissance. Il ne savait pas l'évolution, il ne s'intéressait pas et tout
ouais.
ça. Et au moment quand il a vu la photo, j'ai vu les émotions qui l'ont envahi, les larmes qui ont commencé à couler, et il a commencé à s'intéresser. Donc vous voyez, l'enfant, il est présent, mais il est absent. Ou il est absent, mais il est présent.
Alors quand même, parfois, il peut venir. Et là, il n'y a pas de... C'est sur en fonction ça la venue de l'enfant, la participation de l'enfant, c'est en fonction de la situation concrète, pratique, l'exemple, où il peut y avoir des questions d'âge, simplement, ouais, on comprend qu'un enfant de 6 ans, voilà quoi. Par contre, à 16 ans...
Normalement, il n'y a pas une question d'âge, mais on ne peut pas faire venir non plus un enfant de 3 ans. Normalement, on le fait venir à l'âge de discernement, si tu veux.
Ouais.
Et la loi, elle n'est pas très stricte concernant le discernement, mais les juges, ils considèrent que le discernement peut... qu'un enfant peut avoir un discernement autour de 7-8 ans. Après, il peut avoir de cas quand l'enfant à 6 ans peut venir en médiation. Et que tu as ouvert ce sujet, l'enfant, il vient en médiation quand on parle de médiation parent-adolescent.
Ah, d'accord.
Voilà, et ça, c'est aussi le thème de notre mission d'aujourd'hui.
Très bien, donc on en parlera un petit peu plus tard. Ouais, c'est des cas spécifiques, j'imagine. L'adolescent, c'est un enfant, mais enfin bon, c'est plus vraiment un enfant.
Ce sont des cas qui commencent à être de plus en plus souvent parce que il vient pour la remise en lien. Quand une des parents s'est mis à l'écart, et il veut renouer le lien avec son enfant, ben c'est là que la médiation familiale parent-adolescent intervient.
D'accord. Justine, tu as peut-être des exemples autour de la possibilité de la participation de la venue d'un enfant à une médiation familiale ?
Oui, tout à fait. Donc j'ai plusieurs exemples. Donc comme le disait ma collègue, les enfants sont pas systématiquement donc présents physiquement. Ça va être des cas particuliers qui vont être plus par rapport à une demande des parents ou parce que nous, en tant que médiateurs, on va juger que ça peut être pertinent de recevoir l'enfant. Mais voilà, de manière générale, je pense que c'est quand même davantage les parents qui sont demandeurs à ce que l'enfant soit présent en médiation familiale. Mmh. Et donc, comme elle le spécifiait, c'est à nous d'évaluer si ça nous semble judicieux ou pas. Si c'est un intérêt ou pas de faire venir l'enfant en médiation. Mmh. Après, le cadre est vraiment spécifique quand il y a un enfant qui vient en médiation. Alors, on va pas avoir la même posture que quand on accueille les parents, évidemment, puisque du coup, c'est un enfant, donc il a pas la même capacité, la même réflexion, la même analyse. Ouais. Donc évidemment, on va avoir une posture adaptée à l'accueil des enfants.
Et quand tu parles posture, c'est la façon de lui parler. Oui, on parle à un petit enfant, pas comme à un adulte. C'est ça ou ça va au-delà?
Non, mais c'est déjà ça. Et c'est le fait que nous, on va être là surtout pour accueillir la parole de l'enfant.
D'accord.
Voilà, et ça c'est vraiment important, et c'est important aussi de repréciser l'objectif avec les parents, de vraiment clarifier pourquoi ils veulent faire venir l'enfant, et quand l'enfant vient en médiation, de bien lui spécifier qu'on est là en tant qu'écoutant finalement, on accueille sa parole, mais après c'est pas parce qu'il va nous donner des informations ou qu'il va nous dire ce qu'il souhaite que c'est forcément ce qui va être réalisé. C'est-à-dire qu'on replace finalement l'enfant à sa place d'enfant et on replace aussi les parents à leur place de parents qui ne donnent pas tout pouvoir non plus à l'enfant.
Oui.
Voilà, donc c'est arrivé à replacer un petit peu tout le monde à sa place parce que c'est souvent le cas avec la séparation. Il peut y avoir des places qui bougent, une forme de parentification où finalement c'est l'enfant qui prend un peu le dessus, un peu le plein pouvoir de la situation pour des raisons X ou Y. Voilà, ça peut être une forme de culpabilité des parents face à la situation, donc ils vont vouloir presque tout résoudre des besoins de l'enfant. Enfin voilà, donc du coup, c'est rééquilibrer un petit peu les places de chacun à travers la médiation.
D'accord.
Au niveau des exemples, ouais. Moi j'avais, par exemple, j'en ai eu plusieurs, des enfants en médiation. J'avais des parents qui étaient favorables à respecter le besoin des enfants qui souhaitaient changer de mode de résidence. Mmh. Ils étaient en résidence habituelle chez la mère et ils voulaient aller en résidence alternée, donc un coup chez leur père, un coup chez leur mère. Les parents étaient... Alors, monsieur était favorable à répondre à la demande des enfants. Madame l'était un peu moins. Elle avait besoin un petit peu de réfléchir sur les incidences, qu'est-ce qui allait se passer, comment tout le monde allait pouvoir s'adapter en fait à ce changement-là. Mm-hmm. Donc, j'ai d'abord reçu les parents, puisque c'est toujours important. C'est vrai qu'on n'a pas encore spécifié, mais dans tous les cas, on demande l'autorisation parentale à chaque parent avant de recevoir l'enfant.
Ouais, voilà. Oui, ça me semble logique.
Voilà, mais on le spécifiera plus parce que c'est dans la médiation parent-adolescent qu'elle en parlera un peu plus, ma collègue. Mais en tout cas, voilà, dans un premier temps, on reçoit toujours les parents, alors ou individuellement, ou les deux ensemble. Mm-hmm. Voilà, ça dépend des situations. L'idéal, c'est de les avoir à un moment donné les deux ensemble pour, entre guillemets, commencer aussi à les mettre au travail, à les responsabiliser dans leur rôle de parent face à une prise de décision. Donc là, moi, dans ma situation, j'ai reçu chaque parent individuellement. Je les ai reçus tous les deux ensemble. Et face à leur questionnement par rapport à la résidence alternée, ils ont souhaité que leurs deux enfants soient entendus. Donc moi, j'ai reçu les deux enfants ensemble. Je me suis présentée, j'ai expliqué le cadre de cet échange-là. Et après, je les ai reçus chacun individuellement, ce qui m'a permis d'entendre finalement leurs peurs, leurs questionnements, leurs besoins. Et par la suite, on a fait une restitution auprès des parents. Et après, j'ai reçu les parents seuls une autre fois pour prendre finalement une décision en tant que parent en ayant entendu la parole du coup de leurs enfants.
D'accord. Ils avaient quel âge ces deux enfants-là ?
Là, il y en a un qui rentrait en sixième et l'autre, il allait rentrer en cinquième ou quatrième, quelque chose comme ça.
D'accord. Des pré-ados.
Voilà, c'est ça. Après, j'ai eu le cas aussi par rapport à un choix du collège. Des parents qui n'arrivaient pas à se décider d'un choix du collège, je pense que je l'avais déjà expliqué aussi. Et donc, j'ai reçu leur fille, ne serait-ce que pour entendre aussi sa parole par rapport à ça, toujours en précisant que ce n'est pas elle qui allait décider, mais que c'était important d'entendre ce qu'elle pouvait, elle, en penser.
Et du coup, sont...
Elles ont été entendues,
ouais.
Mais les éléments n'ont pas été liés qu'à la parole de l'enfant. Il y a aussi l'organisation des parents qui était en jeu, hein, par
d'accord,
rapport
d'accord.
Au déplacement, à l'organisation. Mais au final, c'est allé dans le sens aussi de leur fille.
Bon, après, ça ne marche pas à tous les coups.
Non, ça ne marche pas à tous les coups. Après, ils ont pris conscience de certaines choses parce qu'elle a fait des restitutions autres que ça.
Mmh.
Finalement, des retours. Elle a pu voilà, constater que ses parents, malgré tout, en comparaison à ses amis autour d'elle, s'entendaient bien. Malgré une séparation, et elle avait voulu mettre ça en avant, et donc ils ont été contents aussi, les parents, d'avoir ce retour-là, mmh. finalement, de leur fille. Ouais.
Alors là aussi, puisque c'était autour du collège, on est sur des pré-ados, et on va passer au cas des adolescents, parce que là, c'est spécifique, c'est plus particulier. Hein.
C'est une médiation très spécifique, et pour ça, je me permets à dire un petit peu quelles sont les étapes de cette médiation. Si dans une médiation classique, on a les entretiens d'information qui peuvent être individuel ou en commun, et après avoir écrit leur consentement libre et éclairé qu'ils souhaitent commencer la médiation, ben on le met ensemble. Mm-hmm. Donc les deux parents et le médiateur, et on commence la médiation qui peut durer entre 2 à 6 séances, d'accord.
Mm-hmm.
Mais dans une médiation parent à deux, les étapes sont un petit peu différentes. En première, on a des entretiens en général sont individuels parce que le conflit entre les deux parents il est tellement important qu'ils ne peuvent pas rester ensemble, et une des parents il est mise à l'écart. Donc on a cet entretien individuel, et après on fait venir les parents ensemble pour nous donner l'accord sur cette médiation, qu'on commence cette médiation. En troisième étape, on va accueillir l'adolescent s'il souhaite, évidemment, s'il souhaite venir. Mais on part de ce principe que la médiation se met en place. Donc, on a les trois accords et on fait une séance individuelle avec l'adolescent pour voir quels sont ses besoins, quels sont ses attentes, comment on peut dire aux parents qui est mis à l'écart les souhaits d'enfants. Après, on va avoir en quatrième étape un entretien, donc le médiateur et le parent exclu, d'accord, pour le préparer un petit peu à l'entretien avec l'enfant, parce que l'adolescent, il va lui dire des choses. Et en cinquième étape, on met face en face l'adolescent avec cet parent. Et la dernière étape, c'est la restitution. Donc, on réunit encore une fois les parents et on discute qu'est-ce qu'on a décidé. Mm-hmm. Si l'adolescent il a décidé de voir un petit peu plus son parent ou de refaire le lien. Et comme nous sommes dans une association qui est conventionnée, c'est à préciser que chaque parent, donc chaque adulte, il va payer la séance de médiation selon un barème CAF. Par contre, l'adolescent, s'il n'a pas 18 ans, ben c'est financé par CAF, MSA et le département. Donc pour lui, c'est gratuit. S'il choisit de faire une médiation en libéral, pour l'adolescent, la médiation, elle va avoir un coût, et ses parents à s'engager à payer. En général, c'est moitié de le prix qu'il paye le parent. Donc,
d'accord. C'est bien noté. Ça prend combien de temps, là, toutes ces étapes, ce processus en moyenne
Ça peut durer quelques mois. Ça dépend ouais. de s'il y a urgence, et ça dépend de la pratique de chaque médiateur. Moi, je n'ai pas une grosse expérience avec ce type de médiation, mais en général, elle est plus rapide qu'une médiation classique où on laisse un espace de 2 semaines entre les deux séances. On peut laisser un espace de 2 semaines, mais ça dépend de la gravité et on ne veut pas tenir en stress l'adolescent qu'il va rencontrer le parent, et ben, ça se fait en 2 semaines. Il peut avoir des réflexions, de pensées. Donc on essaye de le faire un petit peu plus vite qu'une médiation classique.
Justine, peut-être un exemple pour concrétiser un peu tout ça.
Oui, moi ça va être un exemple plus autour de la remise en lien, mais c'est ce qui est aussi assez fréquent dans les médiations parents-adolescents. Donc là, moi j'avais une jeune fille qui ne voulait plus aller chez son papa. Notamment parce qu'il y avait une nouvelle compagne et que ça ne se passait pas bien avec la nouvelle compagne.
Ouais.
Et en fait, au final, les liens se sont distendus entre la fille et le papa, et elle n'a plus souhaité du tout aller chez son père.
Mmh.
Donc la question, ça a été comment remettre un peu du lien, parce que quand ça fait plusieurs mois qu'un adolescent ne va pas chez son parent, il faut quand même refaire par étapes avant de remettre directement la mise en place et essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé. Donc là, j'ai pu recevoir cette adolescente, essayer de comprendre réellement qu'est-ce qui se jouait pour elle et qui faisait que c'était compliqué, et réfléchir avec elle à quelles sont ses propositions. Qu'est-ce qu'elle accepte, qu'est-ce qu'elle aurait envie de proposer à son père pour remettre du lien avec lui, quelles sont entre guillemets ses attentes autour de sa relation. Comme le disait ma collègue, du coup, je reçois aussi le père seul pour aussi savoir lui qu'est-ce qu'il a envie de dire à sa fille, qu'est-ce qu'il a envie de demander, qu'est-ce qu'il a envie de reprendre avec elle en concernant sa relation avec elle, et quelles sont les propositions que lui aussi il aimerait faire à sa fille pour les travailler ensemble. Quand je reçois dans ce cas-là le père sans sa fille, je ne vais pas lui dire en fait ce que m'a dit sa fille. Là, c'est vraiment pour préparer l'entretien quand ils vont être remis en lien, qu'il va y avoir cet entretien commun. Et quand je reçois du coup les deux personnes, il y a un temps de restitution. Donc ce temps de restitution, dans ce cas-là, c'est moi qui l'ai fait, parce qu'en fait je laisse le choix à l'enfant. Ou c'est l'adolescent ou l'enfant qui fait la restitution, ou c'est moi. Et toute restitution a été vérifiée sur l'entretien seul avec l'adolescent, sur qu'est-ce que... Voilà, moi je vais reformuler la restitution qui va être dite aux parents pour vérifier que l'enfant est d'accord avec tout ce que je vais dire. S'il y a des choses qu'il n'a pas envie que ce soit dites, c'est important que je le sache à l'avance pour pas les formuler. Donc, quand cette restitution elle est faite, donc là dans ce cas-là c'est moi qui l'ai faite. Après il y a eu l'échange avec le papa pour savoir du coup comment organiser. Donc le papa était pas forcément favorable que les échanges ne se fassent qu'en dehors du domicile sans la présence de sa nouvelle compagne, mais il a accepté malgré tout le fait que pour remettre du lien, c'était important de respecter le choix de sa fille, de d'abord passer par des étapes en dehors du domicile avec des temps que tous les deux, puisqu'en fait c'était ça qu'elle réclamait, c'était du temps rien qu'avec son père qui finalement lui donnait moins d'attention du fait de la nouvelle compagne et des enfants de la nouvelle compagne. Donc là, on a mis en place une forme de contrat entre eux avec une remise en lien progressive avec des petites activités à proposer ensemble. Et il y a la possibilité après de revenir en médiation éventuellement s'ils ont besoin pour évaluer et modifier un petit peu ce qu'ils ont décidé.
L'ABC de la médiation familiale, 10e numéro sur CFM Rhodes, la place des enfants en médiation, c'est le thème. Vous l'avez compris, on va poursuivre dans une deuxième partie dans un instant. Après une première pause musicale, c'est toujours Lucia qui choisit la musique, hein, notre playlist. Lucia, oui, qu'est-ce que tu as eu envie de partager avec nous aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'ai choisi un enfant pour les enfants, oui. Claude François, Donna Donna.
Ah bah je la connais pas bien celle-là, je vais me la remettre dans l'oreille. Merci Lucia.
Avec plaisir.
Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Sa vie n'était que joie et bonheur, et pourtant au fond de son cœur, il voulait devenir grand. Il y pensait quand sa maman le berçait. Donna, 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 tu regretteras le temps. Donna, 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 où tu étais un. Il est parti et il a découvert la vie, les amours déçus, la faim et la peur, et souvent au fond de son cœur, il revoyait son enfance, rêvait d'autrefois. Tristement, il y pensait. Donna, 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 tu regretteras le temps. Donna, 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 où tu étais un. Ce petit garçon que j'étais.
CFM Rhodes, l'ABC de la médiation familiale, deuxième partie de cette émission avec l'ADAVEM de l'Aveyron, association départementale d'aide aux victimes et de médiation. Le thème de cette émission avec Justine et Lucia aujourd'hui, c'est la place des enfants en médiation. On a vu ça en gros dans la première partie. Bon, on a vu que c'était central, très important, qu'ils pouvaient participer selon les cas. Justine, tu nous as donné pas mal d'exemples de tout l'intérêt, hein. De la place des enfants dans une médiation. Mais bon, attention. Il peut y avoir des risques. Enfin, on fait pas n'importe quoi. Il y a des limites à tout ça.
Il y a des limites comme partout. Il y a des lois, des limites. Oui, c'est clair qu'il nous encadre. Et dans la médiation parentale 2, on peut avoir comme limite la instrumentalisation, l'aliénation parentale et le conflit de loyauté. Ça, sont quelques-unes. Je ne rentre pas aujourd'hui dans en détail parce qu'on va faire une émission seulement sur l'aliénation parentale et le conflit de loyauté.
Loyauté. Et la première limite, c'est l'instrumentalisation. Oui, je vois à peu près.
L'instrumentalisation. Je m'excuse, mon accent.
Non, c'est j'adore. Lucia, j'adore.
Ah bah merci.
Là, c'est mes oreilles.
Moi, je ne peux pas m'en débarrasser, donc t'as pas le choix, malheureusement.
Toi les oreilles. Donc voilà, c'est les trois limites principales qu'on peut imaginer.
Après, quand on parle de limites, c'est la question qui se pose, c'est pourquoi. Qui sont limites? Parce que pour que la médiation ne se mette pas en place, ça peut être les limites pour les parents, ça peut être des limites pour les enfants, ça peut être des limites pour le médiateur aussi, parce que nous aussi, on a notre limite et on a le droit de dire stop ou de ne prendre pas la médiation.
Oui,
quand le cadre il n'est pas respecté, par exemple, c'est notre limite, exactement.
Et sinon, tu sais, dans l'instrumentalisation, l'aliénation parentale, et le troisième, c'est, rappelle-moi,
c'est le conflit de loyauté.
Voilà. Oui. Là, merci. J'imagine quand même, on développera dans une autre émission, mais dans ces limites, il y a quand même aussi de la mesure, parce que qui va savoir dans quel, déjà de déterminer qu'il y a de l'instrumentalisation, il y a de l'aliénation parentale. C'est peut-être l'excès de tout ça qui fait que, non?
C'est le médiateur de vérifier et de estimer.
Oui, parce qu'il y a toujours un peu, même si on n'instrumentalise pas, en fait, en parlant à quelqu'un, on l'instrumentalise quand on veut.
Mais en tout cas, on se rend vite fait compte. Par exemple, quand un enfant il est dans un conflit de l'EET plus ou dans l'aliénation parentale, ben, on voit qu'il déteste le parent qui est exclu, et pas seulement le parent qui est exclu, il déteste toute la famille de cet parent. Grand-parent, la grand-mère, etc.
Beaucoup.
Il veut rompre les liens avec toute la famille, exactement.
Des exemples peut-être avec Justine.
Oui, donc du coup, moi j'ai eu une situation avec deux parents qui m'ont interpellée par rapport à une résidence alternée qui se passait mal pour leurs trois enfants. Donc je les ai reçus 2-3 fois, les parents, et finalement au bout d'un moment s'est posé la question de leur part de faire intervenir les enfants dans la médiation. Donc au départ j'avais accepté, mais avec une petite réticence, parce que finalement toutes les médiations tournaient à chaque fois autour de la maladie. À chaque fois un des enfants était malade, hein, ou il y avait un problème médical, ce qui m'a un peu quand même mis en alerte, parce que c'est vrai que ça peut être questionnant pour nous, en tout cas ça peut être en tout cas des signaux d'alarme pour nous dans les observations qu'on peut avoir. Dans ces cas-là on peut dire que c'est un peu un enfant symptôme en fait. Finalement l'attention se tourne toujours autour de l'enfant, et puis toujours l'enfant, voilà, là c'était des gros problèmes de maux de ventre, de constipation, des émotions débordantes, des colères vraiment très très excessives. Enfin, il y avait vraiment des choses très compliquées, des maux de tête, beaucoup de choses qui étaient compliquées à vivre pour chacun. Donc la demande venait des deux parents pour recevoir les trois enfants. J'ai eu la maman qui en fait entre-temps m'a téléphoné, ce qui normalement, j'ai envie de dire, on limite tout ce genre d'appels ou de mails entre les médiations pour pas justement se faire instrumentaliser ou partir dans des situations et ne plus avoir notre posture donc d'impartial dans la situation. Et là j'ai eu comme une petite sonnette d'alarme encore qui s'est rajoutée, où la maman m'a demandé si elle pouvait me dire des choses que j'avais pas le droit de dire après. Enfin bon, voilà. Donc moi je lui ai expliqué le cadre, que s'il y avait des informations qui m'étaient données, j'étais obligée de les refaire en entretien commun,
part,
que j'étais obligée d'en refaire part, et que surtout si je recevais madame seule, je dois recevoir à un moment donné monsieur seul, par équité, et qu'il n'y a pas de secret en fait à avoir dans l'espace. Et donc là, elle m'a dit, bon, mais finalement, je ne dirai pas ce que j'ai à dire parce que j'ai peur que ça mette à mal l'entretien avec les enfants. Enfin, voilà. Donc, elle m'a donné déjà des petites billes qui m'interpellaient. Mmh. Et finalement, j'ai fait appel à ma collègue qui était psychologue en proposant, en fait, à cette maman d'avoir un entretien avec la psychologue, ce qui m'enlevait finalement cette part de recevoir des informations qui pouvaient mettre à mal la médiation. Et ça m'a permis aussi d'aller confirmer ou pas avec la psychologue. Est-ce que c'était intéressant que je reçoive les enfants dans cet espace ou est-ce que c'était les mettre plus en difficulté qu'autre chose? Mmh. Et finalement, c'est avéré que c'était mettre plus en difficulté les enfants qu'autre chose dans cette situation, puisqu'il y avait un phénomène d'emprise et de manipulation, dans ce cas-là, du papa envers la maman. Et la maman aussi avait sa responsabilité dans la manière de continuer finalement à laisser... fonctionner en fait cette relation-là, ce système-là. Donc j'ai refusé de recevoir les enfants. J'ai expliqué aux parents pourquoi je refusais de voir les enfants.
Ouais.
Et avec ma collègue, on a fait un signalement auprès du département par rapport du coup à notre inquiétude, notamment au niveau de la santé des enfants qui était quand même très fréquente, et de la relation finalement entre les parents qui accentuait aussi peut-être ce phénomène-là.
Ouais, qui était peut-être toxique.
Qui amène aux limites que du coup on ne peut pas recevoir non plus, que c'est à nous d'évaluer et pour autant ça reste compliqué parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments, parce que il y a des parents qui peuvent aussi entre guillemets porter un certain masque ou avoir une certaine personnalité qui fait qu'on ne peut pas forcément voir la réalité de ce qui se passe, parce qu'il y a le temps de la médiation mais il y a le temps extérieur où on ne maîtrise pas tout. Voilà, après j'ai un autre exemple aussi où souvent j'ai eu 2-3 situations comme ça où le parent finalement dont l'enfant ne veut plus parce que voilà, souvent c'est quand un adolescent ne veut plus aller chez l'autre parent que les questions se posent de médiation.
Ouais.
Et là donc c'était la maman qui avait l'adolescente tout le temps chez elle qui voulait faire en sorte que la situation s'améliore. Et a demandé la médiation pour que le lien se remette entre le père et la fille. Et au final, au fur et à mesure des entretiens, j'ai bien senti qu'en fait, elle faisait tout pour montrer qu'elle voulait aller dans ce sens-là et qu'elle voulait permettre à sa fille de retrouver le lien. Et à la fois, dans son attitude, moi, j'avais la sensation qu'elle faisait tout l'inverse, parce que finalement, ça pouvait l'arranger d'avoir sa fille en fait tout le temps au quotidien.
D'accord.
Ça fait le lien aussi avec le conflit de loyauté, un peu l'aliénation parentale. Moi, quand j'ai reçu l'adolescente, dans son discours, elle me disait « j'ai plus de père, je veux plus aller chez mon père, je veux plus du tout, je veux rester que chez ma mère ». Et en creusant un petit peu dans l'entretien, voilà, j'ai bien senti à un moment donné qu'il y avait peut-être un discours qui n'appartenait pas vraiment à l'enfant, qui pouvait être un peu plus un discours porté par l'adulte. Mais comme cet adulte montre son souhait en fait d'améliorer la situation, ça met en difficulté la mise en place réelle de d'une solution en fait pour permettre la remise en lien.
Ah oui, bien sûr. Et ouais, on voit toute la complexité la pratique de votre métier médiatrice familiale. Voilà, il y a la théorie et puis la pratique, le réel et des cas à chaque fois complètement particuliers et individuels. On arrive au terme de cette émission, 10e numéro de BC, la médiation familiale sur CFM Rodez. Merci à toutes les deux, Justine Lacombe, Lucia Ventila. Je le rappelle, vous travaillez à la DAVEM de l'Aveyron, une association ouverte tout l'été, tu l'as indiqué en début d'émission. D'ailleurs, si tu veux bien, Lucia, avant de se quitter en musique avec un nouveau morceau choisi, je vais te demander de nous redonner peut-être... Alors l'adresse, c'est un rue Ségui, je sais, c'est la nouvelle adresse parce que je suis venu à l'inauguration.
Oui, et merci beaucoup d'être venu.
Voilà, très bien. Ça, c'est un premier contact. Sinon, le moyen le plus simple, premier contact, en fait, c'est peut-être plutôt le téléphone et le mail.
Par téléphone au 05 65 73 56 00 ou par mail, pourquoi pas, au contact@adavem.fr.
On se quitte en musique comme traditionnellement dans cette émission, avec un second titre, toujours le choix de Lucia. Qu'est-ce que tu as eu envie d'écouter?
Oh, ben c'est pas moi qui a envie d'écouter ça, c'est plutôt ma fille Anaëlle. Et c'est un groupe qu'elle adore, Kids United, on écrit sur les murs.
Bon, bah très bien, Kids United, oui, parfait. Merci Lucia.
Merci David.
On se revoit dans 15 jours.
On se revoit en 15 jours avec un bilan sur tous les sujets que peut toucher la médiation. et qu'est-ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant.
Merci beaucoup, Justine.
Merci, David.
On se retrouve dans 15 jours.
Tout à fait.
Kids United, t'as dansé dessus, toi, t'as aimé?
Bon, peut-être.
Allez, bonne journée à toutes et à tous sur CFM.
Au revoir.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. D'où nous l'a écrit, qu'un temps la nuit tout s'efface. Que l'on voudrait dire, on écrit sur les murs le nom de ce